Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, Matière à penser s'intéresse aux grands espoirs de la médecine et tout particulièrement au thème général de modifier un gène et guérir. Ces nouvelles formes de médecine qui sont en pleine révolution et nous verrons pourquoi. Puisque nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Anne Galli, qui est immunologiste au Généton, et professeur Nicolas Boissel, qui est praticien hospitalier et universitaire au service des malades du sang à l'hôpital Saint-Louis. Bonsoir, madame, monsieur.
Bonsoir.
Je suis effectivement frappé dans cette série par l'immense potentialité thérapeutique qui se fait jour. On a caractérisé, bien sûr, la pénicilline comme une vraie révolution, celle l'a été. Et j'ai l'impression que là, l'immunothérapie d'un côté, la génétique de l'autre et les modifications génétiques que l'on peut faire pour guérir sont en plein essor. Vous allez nous raconter ça, puisque c'est votre partie réflexive et clinique. Et en particulier, donc, cette thérapie génique qui est en train d'exploser, puisque plein d'essais sont faits ici et là. C'est un terme général qui veut dire simplement que on va modifier quelque chose dans le génome pour que telle ou telle maladie ne s'exprime pas, en espérant qu'on ne va pas soulever la boîte de Pandore et que d'autres maladies qui étaient ou d'autres perturbations qui étaient bien sous le boisseau ne se réveillent pas. Alors, je m'adresse d'abord aux dames et Madame Anne Galli, je vous remercie d'être là. Vous venez de créer en tant que directrice de recherche INSERM ce qu'on appelle un ART, qui est un nom toujours intéressant, mais qui veut dire ici l'accélérateur de recherche technologique, donc une véritable implication avec 80 chercheurs sur les thématiques que nous allons aborder. C'est une tâche lourde, mais quand même passionnante, me semble-t-il. Alors, expliquez-nous pour nos auditeurs que cette thérapie génique qui consiste à introduire du matériel génétique dans la cellule, in vivo ou in vitro, au laboratoire ou dans l'organisme, quelles sont les grandes caractéristiques de son action possible? C'est-à-dire, on peut essayer de suppléer un gène malade, on peut essayer de réparer une altération, on peut modifier carrément l'ARN, et on peut produire des cellules thérapeutiques modifiées que l'on reverra avec vous, Nicolas Boissel, puisque c'est le traitement phare actuellement qui émeut toute la communauté sur les leucémies aiguës. Revenons donc au concept général de la thérapie génique dont on a beaucoup entendu parler et qui commence à se réaliser. Anne Galli.
Donc vous l'avez bien défini, la thérapie génique, c'est effectivement une nouvelle approche médicinale qui consiste à soigner ou traiter des maladies de façon spécifique en introduisant un gène ou un produit de gène au cœur des cellules malades, donc on peut réparer de cette manière. Elle prend des formes.
Il faut toutes les cellules malades deviennent saines ou il faut virer les cellules malades et les remplacer.
Tout est possible. Donc il y a effectivement des approches dans lesquelles, par exemple sur la thérapie génique des cellules sanguines, où il va falloir effectivement éliminer les cellules malades pour les remplacer par des cellules saines. Et pour faire cela, on utilise donc les cellules propres du patient que l'on va corriger génétiquement au laboratoire et qu'on va réinfuser.
Et comment on élimine les cellules malades? On est toujours dans les maladies du sang. Hein,
donc dans les maladies du sang, on va utiliser une approche comme on l'utilise pour faire la greffe de moelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la chimiothérapie pour éliminer les cellules, faire de la place pour celles qui ont été corrigées, qui vont venir donc se substituer et reproduire. Alors on est toujours dans des contextes aujourd'hui, pratiquement dans la totalité des applications de thérapie génique, encore dans de l'expérimentation, donc dans des essais cliniques. Et dans ce cadre-là, on fait une étude de risque-bénéfice, c'est-à-dire qu'on utilise toujours aujourd'hui ces approches dans des maladies très sévères pour lesquelles on n'a pas d'autres traitements alternatifs. Voilà. On balance effectivement, exactement le risque que l'on fait prendre aux patients par l'administration de la chimiothérapie, par le risque associé à l'utilisation de cette thérapeutique expérimentale, avec le bénéfice évidemment que cela peut apporter et qu'on espère voir dans le cadre de l'essai clinique.
Oui, parce que Anne Galli, en aparté, on parlait d'éthique dans tout ça, on va en parler dans plusieurs fois. Et c'est vrai que toute innovation, je veux dire, parce qu'il y a le principe de de précaution qui des fois nous tombe dessus. On va innover, mais on va changer. Si on innove et qu'on change, on prend des risques. Mm-hmm. Et le problème, c'est de se placer dans une situation, comme vous venez de le dire, qui est risque contre risque. C'est risque si on fait rien ou qu'on n'a pas d'alternative et on annonce une survie courte, ou bien on tente quelque chose pour en sortir. C'est la plupart des interventions sont faites dans ce cadre, c'est bien ça ?
Tout à fait. Ce qui présuppose qu'on ait une très bonne connaissance de la maladie et de son évolution. Et c'est pour ça aussi que on a utilisé beaucoup la thérapie génique, on l'utilise beaucoup dans le cadre de maladies génétiques rares, pour lesquelles on a ce qu'on appelle un défaut monogénique, c'est-à-dire un seul gène qui est affecté, et pour lequel on connaît très bien, en fait, les conséquences et l'évolution de la maladie. Donc on peut se permettre de prendre le risque, bien évaluer, bien calculer de la thérapie génique dans ce contexte-là. Mais il faut préciser que la thérapie génique, c'est pas seulement la thérapie génique comme je la décris pour les maladies sanguines. Ouais. On peut maintenant utiliser d'autres approches pour traiter évidemment d'autres maladies génétiques, par exemple des myopathies, par exemple des maladies neurologiques, en utilisant donc directement l'administration d'un gène médicament au sein des cellules.
Alors, vous parlez d'un gène médicament, et un des gros problèmes auxquels vous avez été et vous êtes toujours confronté, c'est comment j'amène ce gène médicament à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire, voilà, par quel vecteur, avec quel cheval il arrive, quoi.
Donc, ça fait 20 ans, 20, 30 ans même, hein, que les chercheurs cherchent à résoudre ce problème-là.
Et
qui sont passés par différentes modalités d'administration.
C'est pas fini, mais enfin, il y a quand même des réponses.
Tout à fait. On est arrivé maintenant à des systèmes de délivrance qui sont relativement performants et qui utilisent justement les propriétés des virus, parce que les virus, ce sont des parasites cellulaires, hein, qui ont la propriété justement exactement de rentrer, de pénétrer, de reconnaître certaines cellules et de délivrer leur cargo génétique, donc qu'on va substituer par le gène thérapeutique. Et on sait, par génie génétique, ingénierer ces virus pour les rendre non seulement inoffensifs, mais leur donner les propriétés qu'on souhaite pour qu'ils aillent atteindre les cellules que l'on souhaite modifier génétiquement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes de vecteurs viraux de thérapie génique qui dominent un petit peu dans les laboratoires. Sur le plan des maladies sanguines, on utilise beaucoup les vecteurs lentiviraux dérivés du VIH. On utilise pour la délivrance dans le cerveau, dans l'œil ou dans le foie ou dans le muscle des vecteurs adéno-associés qui sont des tout petits virus qui sont en fait ce qu'on appelle des dépendovirus et qui sont relativement peu inflammatoires et qui ont la capacité justement de diffuser dans tout l'organisme et de délivrer leur cargo.
Et dans cette utilisation de ces vecteurs indispensable à la modification de l'activité de la cellule, est-ce qu'on a eu des incidents, des accidents ? Est-ce qu'on a dû finalement trouver des vecteurs sécurisé, quoi.
Bien sûr, donc pour une thérapeutique expérimentale, et c'est évident qu'il y a toujours en fait des risques qui sont pris. Les premières générations de virus ont posé quelques problèmes. Avant ces petits virus adéno-associés, par exemple, on utilisait des adénovirus, qui étaient des virus beaucoup plus gros, très inflammatoires. Et le premier patient qui est décédé de thérapie génique est un patient qui a fait une réaction inflammatoire non contrôlée, en fait, et qui l'a emporté, en fait, ce qu'on appelle un orage cytokinique suite à l'administration de ces quantités énormes de virus adéno dont on avait sous-estimé le risque à l'époque. On a eu aussi l'épisode des leucémies induites dans quelques cas chez les bébés bulles par l'utilisation de ces vecteurs rétroviraux avant l'utilisation justement des vecteurs lentiviraux. Donc on est passé sur des générations de virus beaucoup plus efficaces, beaucoup plus sécurisées. On a bien compris aussi, c'est ce qui est remarquable en fait dans ce domaine de la thérapie génique, c'est que c'est une nouvelle modalité mais qui s'accompagne quand même d'une connaissance scientifique approfondie qui consiste par exemple à bien essayer de comprendre et de modéliser et de modifier les conséquences et les modes d'action en fait de ces outils. Parce qu'on a des vecteurs sécurisés qui n'activent pas le génome autour d'eux, qui vont juste apporter le gène thérapeutique, et en même temps
c'est
parce qu'on a
précis,
une très très large population de cellules corrigées, voilà, qui se balancent et qui permettent aussi d'avoir une activité très durable dans le temps et donc moins de pression sélective.
Et Anne-Gadie, dans votre groupe de recherche, est-ce que vous travaillez aussi sur des vecteurs non viraux, est-ce que c'est une voie de développement?
Ces vecteurs non viraux prennent un petit peu de regain dans le contexte en particulier de l'utilisation de ces nouveaux outils moléculaires qui sont les CRISPR, les outils CRISPR.
Les outils CRISPR pour nos auditeurs.
Alors les outils CRISPR, c'est une toute nouvelle approche en fait finalement de chirurgie du génome. Hein. Ce sont
des ciseaux génétiques.
Des ciseaux génétiques. Voilà,
on va
exactement
couper la partie malade et éventuellement la remplacer ou permettre leur aboutissement.
Et on peut voilà, faire de façon très précise des réparations, éditer finalement le génome. Donc pour faire cela, effectivement, les gens se sont beaucoup intéressés à l'utilisation justement d'outils non viraux, parce que probablement plus économiques à développer, peut-être plus faciles à utiliser. Il faut savoir quand même que les vecteurs viraux de thérapie génique restent largement utilisés et largement les plus efficaces
pour l'instant,
voilà, pour la délivrance et le traitement des maladies.
D'autres évolutions. Mm-hmm. Merci. Merci pour ce survol, hein. Je sais que ça mériterait en tant que thématique déjà beaucoup plus de temps, mais je pense qu'on a quand même quelques idées générales. J'aimerais maintenant me tourner vers Nicolas Boissel, parce que c'est le clinicien en première ligne de certaines pathologies, chercheur aussi, mais qui se confronte, hein, avec des choses qui sont lourdes, que moi j'ai trouvé lourdes dans mes études médicales, qui est toujours la leucémie de l'enfant. Peut-être juste un mot et un hommage à Jean Bernard, parce que quand même c'est le père de tellement de choses, et non seulement sur le plan éthique, mais sur le plan surtout scientifique et des développements donc par rapport à cette leucémie aiguë qui était redoutable. J'ai lu à l'occasion, j'ai relu que la fameuse chanson de Tino Rossi, La Petit Papa Noël, elle était tirée d'un film où l'histoire, c'est un jeune garçon qui est leucémique, qui n'a pas de chance de survie, et que quelque part on fait appel à Papa Noël. Alors les nouveaux Papa Noël, c'est vous, avec d'autres choses dans votre besace. Évidemment, il y a plusieurs types de leucémies qui sont aiguës, chroniques, caractérisées à la moelle, à vos ganglions et à la rate, etc. Et finalement, il y a eu un long chemin, hein, pour aboutir à certains traitements. Et j'ai envie de sauter les détails pour parler de, ou avant que vous vouliez en parler, de Sydney Farber, donc qui va administrer de la vitamine B9 dans les traitements de la leucémie à Boston. On est en 48, et simplement cette administration aggrave et l'enfant meurt. Alors, il a l'idée quand même assez géniale, c'est que si l'acide folique B9 est aggravant, peut-être que si on bloque le... Et c'est la démarche qu'on va retrouver, hein, en immunothérapie. C'est vraiment des efforts de pensée, je trouve, qui permettent. Alors, on va trouver et on va essayer donc de développer des antagonistes de l'acide folique qui vont peut-être amener des rémissions, et c'était un mode de pensée extrêmement intéressant. Reste que à ce moment-là, on commence à mieux maîtriser les transfusions, les plaquettes, moins de risques de transmettre, et que on va développer donc les fameuses greffes de moelle. On va buter contre les groupes Sheila, et on va avancer avec un événement clé qui touche pas l'enfant, qui touche des adultes. Nous sommes en 58, c'est les 6 ingénieurs yougoslaves qui sont irradiés. Georges Mathé n'hésite pas, à ce moment-là, en collaboration avec Jean Bernard, à faire le nécessaire pour essayer donc de greffer des cellules de la moelle. Et là, on va ouvrir un champ énorme. Mais si une bonne partie des enfants traités par greffe et par chimiothérapie, 85% à peu près, s'en tirent en tous les cas en des rémissions, je crois que c'est ça, on est d'accord, Nicolas Boissel, il y a des échecs. Alors peut-être on revient un peu sur cette thérapeutique majeure que l'on propose lorsqu'on est en face d'une leucémie, c'est-à-dire la greffe de moelle et la chimiothérapie.
Oui, merci pour ce rappel historique. Effectivement, en 50 ans environ, on a fait des progrès absolument remarquables dans le traitement de cette forme de leucémie aiguë, qui est le premier cancer de l'enfant, qui est la leucémie aiguë lymphoblastique, qu'on retrouve également aussi chez l'adulte, avec des caractéristiques différentes, avec une résistance plus importante au traitement. Et c'est, vous l'avez rappelé, avant tout l'utilisation d'une succession de chimiothérapie, de formes de chimiothérapie, qui permet aujourd'hui de guérir jusqu'à 90-95% des enfants, sans avoir recours à la greffe de moelle dans la plupart des cas. On sait que cette maladie, elle est capable de muter, de résister au traitement. Et donc, on va utiliser successivement plus d'une dizaine de chimiothérapies différentes pendant des temps extrêmement longs, jusqu'à 3 ans de traitement, mais avec les succès qu'on connaît.
Avec les succès, mais aussi la lourdeur du traitement, malheureusement.
Exactement. Donc, c'est l'une des problématiques, c'est que on ne sort pas forcément indemne de 3 ans de traitement et de chimiothérapie aussi diverses. Et malheureusement également, il y a certains patients qui vont résister aux chimiothérapies dites conventionnelles et pour lesquelles une greffe de moelle sera proposée. C'est une grande minorité des cas chez l'enfant. Elle n'est pas utilisée à visée réparatrice, comme ça a pu l'être pour les ingénieurs. La première greffe irradiée, la première greffe que vous avez rappelée, elle est utilisée comme une immunothérapie à part entière. C'est-à-dire que l'objectif va être de modifier le système immunitaire du patient et de redonner la main à un système immunitaire pour qu'il s'attaque aux cellules de la maladie. Alors, le système immunitaire dérive de la moelle osseuse. C'est l'usine qui fabrique les cellules du sang, les cellules du système immunitaire. Vous pouvez pas greffer l'un sans l'autre, ou alors vous allez greffer un système immunitaire qui va disparaître au bout de quelques jours ou quelques semaines. Donc il faut greffer l'ensemble pour pouvoir bénéficier de cette action prolongée du système immunitaire. Et donc c'est cet effet du greffon contre la leucémie qu'on espère en faisant des greffes. On a maintenant bien démontré cet effet immunologique. Donc on n'est pas simplement sur un remplacement d'une pièce défaillante comme on pourrait le penser, un remplacement d'une moelle osseuse qui dysfonctionne et dont certaines cellules sont devenues cancéreuses. On est vraiment sur les premiers pas de l'immunothérapie.
Alors justement, Océan Nicolas Boissel, dans ce développement tout récemment, on parle de cette action qu'on appelle CAR-T, c'est ça?
Oui.
C'est-à-dire la création de prendre des cellules, de les transformer génétiquement et de les réinjecter pour qu'elles soient avec leur GPS de tueuses contre les cellules cancéreuses. C'est tout nouveau, mais j'ai l'impression, en vous lisant scientifiquement les uns les autres, qu'il y a un véritable engouement.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une histoire nouvelle sur le plan clinique, puisque ça fait quelques années maintenant que cette thérapeutique a remporté un grand succès aux États-Unis. C'est une histoire aussi ancienne, puisque ça fait 30 ans que la technologie est connue, a été inventée par des chercheurs israéliens. Et il a fallu 30 ans pour qu'elle devienne efficiente, ou du moins qu'on puisse l'utiliser comme on l'utilise aujourd'hui et obtenir des guérisons chez des patients qui ont échappé aux différentes chimiothérapies et également aux stratégies de greffe de moelle. Donc l'idée, on n'est pas sur de la réparation de gènes défaillants. L'idée, c'est d'apporter un nouveau gène à ces cellules du système immunitaire, dont l'objectif est de tuer naturellement des cellules infectées ou des cellules cancéreuses. Alors quand la leucémie se développe, ce système a été dépassé. Et donc on va fournir à ces cellules par la thérapie génique un nouvel outil qui va leur permettre de reconnaître directement les cellules cancéreuses et de s'activer et de les tuer.
Donc on prend des cellules lymphocytes, on va dire certains globules blancs B et T, on va les isoler, on va les mettre in vitro et on va leur faire subir une transformation génétique, mais ils vont garder leur fameux GPS, enfin leur fameux antigène qui va leur permettre de reconnaître les cellules cancéreuses. Ça dure à peu près 2-3 mois pour l'instant, ça va peut-être se réduire. Il faut les envoyer aux États-Unis avant que nous-mêmes nous ayons un laboratoire pour le faire, mais je crois que Saint-Louis vient d'être reconnu comme futur centre de production, donc c'est là où vous travaillez, donc c'est un point important. Et donc ces lymphocytes T qui vont se développer au laboratoire, ils vont être plusieurs millions, on va les reprendre et on va les réinjecter pour qu'ils effectuent leurs tâches. En résumé, ça ne marche pas à tous les coups. Ça s'adresse aux cas les plus difficiles, sur lesquels on n'a plus d'alternatives thérapeutiques. Mais on a quand même des résultats époustouflants sur des gens qui étaient condamnés, faut bien le dire, selon nos critères. L'administration elle-même peut créer des troubles comme toujours, des orages de réaction. Mais tout le monde est dessus pour travailler à l'amoindrissement, aux modalités, et à une meilleure acceptation. Donc c'est véritablement un grand pas en avant, la radiothérapie en fin du siècle, la chimiothérapie en 49, l'immunologie en 2000, et la thérapie génique avec vous, Anne Gadi et Nicolas Boissel. Ces années-là, nous allons un peu écouter un peu de musique avant de reprendre.
Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Claxon. Elle vit dans une île entourée de crocodiles et de fantômes. Noire comme l'ébène, souveraine, elle joue du trombone. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone me sonne. Je sais que c'est Mona Lisa Claxon. Allô, ça va? Oh, Mona Lisa Claxon. Comme ça, Mona Lisa Claxon. Et toi? Oh, Mona Lisa Claxon, je n'en peux plus. Danse, danse, remue pour moi au téléphone. Les soirs où Mona Lisa Claxon a le cafard, elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant l'échine. De la jungle en démence monte cette incantation divine. Divine Mona Lisa Claxon. Joue du trombone Mona Lisa Claxon. Mona Lisa Claxon. Trombone Mona Lisa Claxon. Je n'en peux plus, je suis fou, fou, fou de toi, de la danse, de tes pas. Oh Mona Lisa Claxon. Oh Mona Lisa Claxon. Soudain derrière elle surgit le célèbre King Kong. Il a la bave aux lèvres.
Bien, Mona Lisa Claxon de Jacques Higelin pour nous détendre un peu de cette thématique lourde mais passionnante et pleine d'espoir. Puisque vous êtes sur France Culture en compagnie d'Anne Galli, qui est immunologiste au Généton, et le professeur Nicolas Boissel, praticien hospitalier, professeur des universités, qui s'occupe des petits malades jeunes et moins jeunes, jusqu'à l'adolescence, on va dire, des maladies du sang à l'hôpital Saint-Louis. Donc nous venons de parcourir un peu les grandes évolutions de la thérapie génique, le fait de pouvoir modifier un gène qui a une mauvaise expression d'une mauvaise protéine et on va essayer de le corriger d'une façon ou d'une autre. On va y revenir, bien entendu. On a parlé des leucémies aiguës et du changement que procurent les techniques donc de remplacement des cellules lymphocytaires qui sont les cellules tueuses pour qu'elles soient effectivement très tueuses des mauvaises cellules mais pas des bonnes, bien entendu. Et je voudrais maintenant aborder, on pourrait revenir dessus parce qu'il y a tellement de maladies différentes, mais c'est un peu le principe, l'histoire de l'hémophilie. Alors peut-être, Anne Galli, vous nous rappelez un peu ce que c'est que l'hémophilie?
L'hémophilie, c'est une maladie génétique. Alors, il y a plusieurs types d'hémophilie, évidemment. Ce sont des protéines qui sont impliquées dans la cascade de la coagulation, c'est-à-dire ces processus qui nous permettent d'arrêter les hémorragies quand il y a une brèche vasculaire, etc. Et il manque certains facteurs
vous
de manière
cascade
génétique.
Parce qu'effectivement,
qu'ils s'activent les uns les autres. On a plusieurs facteurs qui sont impliqués. Les plus connus, ce sont le facteur 9 pour l'hémophilie A et le facteur 8 pour l'hémophilie B. Et donc, ce sont des maladies génétiques qui sont relativement bien connues et qui se traitent par l'administration de ces protéines que l'on peut produire au laboratoire, donc des protéines recombinantes qu'on injecte aux patients. Ce sont des traitements lourds qui sont pas dénués de risques puisque les patients peuvent s'immuniser contre les protéines qu'on leur injecte et le traitement n'est pas idéal et surtout il coûte beaucoup d'argent. Ça fait plusieurs années que plusieurs groupes essayent de trouver des traitements de l'hémophilie par thérapie génique, puisqu'il suffit de rapporter le gène qui code pour la protéine manquante donc dans l'organisme de la personne. Et jusqu'à relativement récemment, en fait, toutes ces approches se sont révélées infructueuses pour différentes raisons.
Angélie, avant que vous donniez la clé du là depuis quelques années, mais de cette réponse, je voulais juste rappeler que c'est une maladie qui est connue depuis la fin des temps, on peut dire, puisque déjà dans le Talmud de Babylone, on dit à une famille de ne pas faire de circoncision si les deux enfants précédents sont décédés par des saignements incoercibles. La grande reine Victoria a communiqué cette histoire à pas mal de têtes couronnées, en particulier le plus célèbre, c'est le petit Tsarevitch, Romanov, qui était victime donc de cela. Tout ça pour dire que c'est une cause génétique. C'est une cause génétique et que normalement, elle atteint les garçons, mais elle est transmise par les filles, puisque c'est sur le chromosome X que se situe l'altération en question. Et si les garçons héritent du chromosome X altéré, ils vont développer la maladie. Et il faudrait que les filles manquent de chance et les deux chromosomes X qui viennent d'un homme déjà atteint et d'une femme atteinte pour qu'elles-mêmes développent. Donc c'est pas tout à fait exclu pour les filles, mais c'est surtout une maladie des garçons et transmise par les femmes. Donc on est déjà dans la génétique avant qu'on comprenne, donc qu'on essaye de transfuser ou de changer donc la fraction plasmatique. Et puis je vous ai coupé la parole, mais c'était juste pour resituer cela. C'est les différents projets aujourd'hui qui sont véritablement là sous la main.
Oui, donc effectivement, plusieurs groupes travaillent d'arrache-pied pour essayer de corriger, de rapporter un niveau suffisamment thérapeutique, donc par exemple de facteur 9 dans le cas de l'hémophilie B. Ce qui a été assez compliqué parce que d'abord, il n'est pas facile de faire accepter justement les vecteurs de thérapie génique et de faire en sorte qu'ils puissent être suffisamment efficaces pour exprimer suffisamment de protéines. Et puis, les résultats, on n'avait pas jusqu'à présent progressé au-delà des modèles expérimentaux. Et en 2014, ont été publiés vraiment les premiers résultats cliniques qui ont été réalisés au Royaume-Uni, où un chercheur a effectivement oser injecter de manière intraveineuse ces fameux vecteurs adéno-associés. Et il avait évidemment tous les éléments qui conduisaient à penser que ce serait une approche sécurisée. Et effectivement, l'approche a été très bien tolérée. Et les patients ont vu s'exprimer dans leur foie, dans leurs cellules, dans les hépatocytes, des niveaux suffisamment élevés pour être, si ce n'est thérapeutique, mais au moins procurer quand même quelques pourcentages de facteurs 9 suffisamment pour réduire leur saignement ou réduire les périodes entre lesquelles ils avaient besoin de se faire injecter ces protéines recombinantes. Et certains patients sont même arrivés sur des taux élevés. Alors c'était déjà une preuve de principe, je trouve, assez remarquable, qui montrait d'ailleurs pour la première fois l'innocuité de l'administration intraveineuse de ces vecteurs adéno-associés. Et donc ces travaux, évidemment, ont été amplifiés, reproduits et améliorés par des vecteurs...
Et là, vous avez plusieurs essais, Angélie, qui sont en cours dans le monde.
Exactement, il y a des essais maintenant avec des vecteurs améliorés qui apportent, sur certains patients, pratiquement 30%, donc un tiers du niveau normal, c'est-à-dire largement, en fait, ce qui est suffisant pour avoir une restauration thérapeutique.
C'est-à-dire qu'on donne aux patients la possibilité de refabriquer,
de synthétiser lui-même,
et de ne plus être dépendant d'une administration extérieure. Exactement. Une fois que la connexion s'est bien faite.
Voilà, donc il y a plusieurs articles qui sont sortis l'année dernière ou il y a deux ans, pas plus, donc très récemment, et qui montrent effectivement que chez certains patients, on peut atteindre des niveaux tout à fait conséquents donc de ces protéines recombinantes donc qui sont apportées de façon génétique. Ce qui est un changement majeur, évidemment, dans le traitement de ces patients, puisque là, ils deviennent à ce moment-là indépendants de transfusion, indépendants d'infusion de protéines. On a donc maintenant une question un peu presque économique également à prendre en compte, puisque on se trouve à pouvoir finalement améliorer des pathologies qui coûtaient extrêmement cher à prendre en charge par quelque chose qui a un certain coût, évidemment, qui est la thérapie génique, mais qui peut évidemment avoir un bénéfice à la fois.
Mais vous, ce que vous dites, c'est que finalement, sur le plan du coût, c'est peut-être pas si cher que ça.
C'est à évaluer, évidemment,
avec les autres traitements que l'on donnait. Tout à fait. Jusqu'à présent. Est-ce que c'est votre sentiment, Nicolas Boissel, c'est que malgré le coût de ces innovations en thérapie génique et en immunologie, et le prix de certains médicaments, puisqu'on voit bien que dans d'autres domaines plus larges, on atteint 400 000 euros par traitement, par exemple, est-ce que vous pensez, un, que les choses ont évolué, deux, que c'est une phase nécessaire et indispensable, et qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions? Ou est-ce que l'État doit agir différemment?
Il est certain qu'on est au début de l'aventure, qu'il fallait un moment mettre le pied à l'étrier, que l'on paye probablement des années de recherche et de mise au point au jour d'aujourd'hui, et que les premiers produits qui arrivent nécessitent des investissements considérable, notamment matériel, puisqu'on a parlé tout à l'heure des plateformes de production et de tout l'équipement qui rentre dans ces plateformes. Et donc, bien évidemment, les chiffrages aujourd'hui tiennent compte de toute cette historique. Il est fort à penser que dans les années qui viennent, le prix de ces thérapeutiques va diminuer. Ne serait-ce aussi que par l'effet de la concurrence, le nombre d'essais de thérapie génique dans le cancer, et notamment sur la question des CAR-T, est exponentiel. La stratégie en elle-même est en train de se modifier, c'est-à-dire qu'on parlait des CAR-T relativement simples de première ou deuxième génération tout à l'heure. On sait déjà que dans les laboratoires et même dans le cadre des essais cliniques précoces, on a de nouvelles générations de CAR-T qui arrivent. Et donc, les plateformes seront prêtes à produire et qu'on va être dans un système forcément concurrentiel. On ne pense pas que ce soit avoir un produit qui va être accessible évidemment à l'ensemble des patients de cette planète. Mais
dans cette phase de début, j'ai vu qu'un des laboratoires a proposé le paiement selon les résultats.
Oui. Tout à fait.
Que si ça marche, on paye, et si ça marche pas, oui. Tant pis.
Oui, sachant que le ça marche,
comment? C'est très innovant la thérapie génique.
Le ça marche est difficile à définir, et ce système de remboursement justement achoppe sur la question de l'efficacité et de l'évaluation d'efficacité. Est-ce que l'efficacité, c'est ce qu'on appelle obtenir une rémission dans une leucémie? Est-ce que c'est le fait de survivre 3 mois, 6 mois, que la maladie ne revienne pas? Donc c'est un principe qui est intéressant, mais qui en pratique est pas si simple à mettre en œuvre.
Alors, nous avons en France une possibilité d'action intéressante qu'on appelle l'ATU, c'est-à-dire la mise sur le marché rapide avant d'avoir toutes les informations par-ci par-là. Et vous en bénéficiez?
Oui, alors bon, il faut
expliquer peut-être ce que c'est.
C'est fait. Donc l'autorisation temporaire d'utilisation donc est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, et permet effectivement, c'est une particularité française, d'avoir accès aux médicaments à partir du moment où en gros, les premières études valident l'efficacité et que le médicament part dans cette espèce de grand cheminement et de validation des agences américaines, européennes. Et donc, ça fait maintenant plusieurs années que nous avons accès à cette thérapeutique dans le cadre
des
ATU. Tout à fait.
Et de faire entrer des patients dans les protocoles.
Exactement. Non, alors ce ne sont pas des protocoles, justement. C'est-à-dire qu'on est justement dans la phase après la validation dans le cadre de protocoles. Et le médicament est directement accessible à la prescription.
Voilà. Par rapport à une autre démarche, on n'a pas le recul nécessaire peut-être à la mise en place d'un nouveau médicament, mais suffisamment quand même pour... Et puis il faut se presser, parce qu'on est quand même sur des
Tout à fait, ça permet d'avoir accès au médicament, alors que l'histoire du médicament va suivre son cours, c'est-à-dire qu'elle va être évaluée par les différentes agences, entre le moment où la preuve est faite sur le plan de la clinique, la charge clinique a montré l'efficacité du médicament, et au moment où le médicament est accessible et est en vente, il va se passer plusieurs mois, voire plusieurs années, donc ça permet de raccourcir ces temps et de donner accès aux patients à ces médicaments innovants. Donc c'est un procédé extrêmement appréciable dans le système de santé français.
Alors, dans ces discussions et dans l'ensemble de la série d'ailleurs dernière, on parle de deux grosses innovations, donc l'immunothérapie, tout le phénomène immunologique qu'on essaie de restituer chez l'individu malade avec ses propres défenses, et tout ça aidé en grande partie par l'activité génétique, on a mieux compris, et en particulier les thérapies géniques qui font partie justement de ces modifications de ce qui nous semblait immuable et intouchable. Donc c'est vraiment, je pense, dans les 20 années qui viennent, une conjonction qui va être fondamentale en médecine. Et je voulais vous demander à l'un ou à l'autre, je veux dire Nicolas Boissel ou Anne Galli, est-ce que le profil génétique de chacun, que l'on connaît, que l'on peut connaître mieux, en particulier celui de la tumeur hein, ou celui de la maladie qu'on dispose, est-ce que c'est quelque chose qui va aussi se développer pour devenir une caractéristique, disons que tel patient a tel profil et va répondre ou pas répondre au traitement, ou en tous les cas ça va vous permettre de le moduler. Est-ce que vous êtes aussi sur ce développement-là?
Les approches de ce qu'on appelle de ce que vous citez sont les approches de pharmacogénomique qui consisteraient à prédire la réponse à un traitement, à un médicament selon le profil génétique de la personne, parce que nous savons que nous avons tous des variabilités dans notre génome qui des duplications de gènes ou des modifications qui nous conduisent à répondre de façon différente. Donc ça, c'est déjà très utilisé. Mais plus globalement, effectivement, la médecine personnalisée, c'est comme on vient de le décrire, l'utilisation des cellules propres de la personne pour son propre traitement, comme on l'a vu sur les CAR-T, comme on le voit dans la thérapie génico-autologue. C'est également aussi l'utilisation, par exemple, de cellules souches pluripotentes induites qu'on peut se procurer donc, chez un patient pour pouvoir ensuite faire des modèles de sa maladie et pouvoir étudier, par exemple,
donc, différents on prend une cellule types adulte
de médicaments pour voir si ça fonctionne.
On prend une cellule adulte de l'adulte.
Voilà.
On va prendre son noyau, on va le mettre dans une autre.
Non, on reprogramme la cellule, on prend un fibroblaste de peau que l'on traite au laboratoire avec différents facteurs et on en refait par exemple un neurone, des cellules souches neuronales et donc neurales.
Donc on va transformer la destinée, puisqu'ils reviennent tout le monde d'une même origine. On va retrouver l'état initial prédifférencié, on va le redifférencier vers telle ou telle cellule ou tissu qui nous intéresse.
Ce qui permet d'avoir des modèles, par exemple, d'une maladie avec la mutation génétique propre de la personne sur laquelle on pourrait traiter. On pourrait tester, par exemple, un panel de médicaments et voir s'ils fonctionnent ou pas. Donc, il y a énormément d'approches, effectivement, de médecine personnalisée aujourd'hui qui sont très intéressantes. Donc, on est sur des nouveaux concepts complètement. On est passé de cette médecine basée sur la chimie, largement, à des approches maintenant biologiques qui ont commencé avec l'arrivée des anticorps monoclonaux, maintenant avec la thérapie cellulaire, avec la thérapie génique, avec l'utilisation de virothérapie, l'utilisation de médecine régénératrice. Et c'est des concepts complètement nouveaux, c'est des filières de médicaments complètement nouvelles. Et des filières médicales également complètement nouvelles, avec des évaluations du risque et du bénéfice aussi qui sont un petit peu différentes. Donc,
justement,
c'est très intéressant.
Dans les risques et bénéfices, et avec une approche biologique nécessaire, celle que vous venez de citer, l'individualisation, est-ce qu'elle passe aussi par une approche humaine, psychologique, personnelle de la personne qui n'est pas sur une base génétique, mais qui est sur le fait que c'est quand même un parcours compliqué? Ce qui nécessite un encadrement, une présence. Est-ce que vous êtes assez armé dans les hôpitaux par rapport à cette gravité de situation où vous voyez des gens assez longtemps finalement?
Alors aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on voit des patients à des stades très très avancés de la maladie. Comme les traitements ne sont pas disponibles sur l'ensemble du territoire, même si ça va l'être probablement un peu plus cette année, ce sont des patients qui sont amenés à voyager beaucoup, à changer de centre en cours de traitement pour recevoir cette thérapeutique. Et donc, on a effectivement des parcours extrêmement complexes.
J'ai pas compris, Nicolas Boissel. Pourquoi est-ce que c'est les patients qui voyagent et pas l'inverse?
Eh ben, ça va venir, mais il faut, au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase d'accréditation des centres, comme la greffe de moelle n'a pas pu se faire partout du jour au lendemain et que maintenant elle est démocratisée. Cette fameuse thérapie cellulaire et génique.
Il faut aller dans les centres où on fait, ça vous voulez dire.
Tout à fait. Ce sont des choses qui vont se modifier. Et donc, dans l'avenir, on va utiliser de plus en plus précocement ces thérapeutiques et prendre en charge des patients à des stades beaucoup moins avancés de la maladie. Est-ce qu'on est armé? Oui, je pense aujourd'hui qu'on a fait aussi beaucoup de progrès. Ça dépasse le cadre de la thérapie génique. On a mis en place des accompagnements qui sont pluriprofessionnels. On n'est pas, nous, médecins seuls à prendre en charge le patient. On a autour de nous énormément de professionnels, de psychologues, d'infirmières qui coordonnent ces parcours. et qui nous aide à accompagner les patients à la fois sur le plan médical, mais également face aux difficultés sociales, économiques qu'ils peuvent rencontrer dans la prise en charge de leur pathologie.
Et avant ce stade de patient, je dirais, nous sommes tous passés par un stade d'embryon, moins communicant sur le plan du langage, néanmoins existant. Et la thérapie génique commence à montrer ses possibilités à ce stade-là. Je veux dire par là que la possibilité par les fameux ciseaux CRISPR que vous aviez évoqué tout à l'heure, Angali, pourrait être appliquée. On se dit, bah oui, pendant un temps, nous, gynécologues, on a fait du diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on a pu voir chez des gens qui avaient un risque, tel embryon était atteint, tel embryon n'était pas atteint. Évidemment, on n'utilisait que à remettre dans l'utérus que l'embryon qui n'était pas atteint. Vous pensez que l'avenir sera une possibilité d'intervenir et de corriger les embryons avant de les remettre et ne plus procéder à ce choix ou à ce tri, diraient certains.
Vous évoquez des questions éthiques qui sont omniprésentes, je pense, pour les chercheurs, parce qu'effectivement, elles se sont posées très tôt dans le cadre de la thérapie génique. Alors, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, dans le cadre de la thérapie génique, on est autorisé et on a pour objectif de faire des corrections au niveau somatique, c'est-à-dire qu'on corrige les cellules de la personne qui est malade, mais on ne va pas corriger la descendance et ce qui va se transmettre, voilà, ce qui serait donc la correction au niveau des génies germinales. Maintenant, effectivement, les progrès évoluent à une telle rapidité que on sait aujourd'hui que tout ça c'est possible. On sait corriger, on sait faire des modifications génétiques sur des embryons même humains, on sait corriger on sait même reprogrammer des cellules de peau, par exemple, ou des cellules, en tout cas chez la souris, en gamètes, par exemple. Donc, on peut modifier complètement la descendance d'une souris à partir d'une souris adulte. On peut aussi faire des transferts de mitochondries au cours de la fertilisation, enfin, pour transmettre le patrimoine mitochondrial, en fait, à la descendance. Donc, on sait faire beaucoup de choses. Exactement, voilà. Donc, ça pose vraiment des questions éthiques que les chercheurs sont actuellement en train de se poser, notamment à l'avènement là des événements qui ont eu lieu en fin d'année où un chercheur chinois de façon tout à fait illégale utilisait justement ces ciseaux moléculaires pour en fait modifier l'ADN d'embryons qu'il a ensuite mené à terme, et donc il a fait naître effectivement deux petites filles dont le patrimoine génétique a été modifié de façon héréditaire, enfin avec une modification héréditaire, mais bon, qui a suscité en fait un tollé au niveau international, et en fait une mise, d'ailleurs il a été mis à pied par son institution en Chine. Bref, tout ça nous conduit, nous, par contre, à nous poser ces questions de façon récurrente. Et il y a un débat, parce que c'est pas facile, en fait, ces questions.
Est-ce que vous pensez qu'il faudra peut-être organiser une espèce d'asile Omar, enfin, je veux dire, de réunion scientifique internationale sur une thématique éthique aussi lourde que celle-là, pour se donner les modalités d'avancer, de comprendre, mais en même temps, peut-être de ne pas dépasser certaines lignes?
Je crois que c'est déjà fait. Enfin, je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de réflexions qui ont eu lieu. Il y a
pas une
au
réunion,
niveau international, oui, probablement.
Vous voyez un peu, je fais référence à Zilomar, qui a été quand même bon un top départ
pour la recherche sur l'ADN, oui, sur l'ADN, sur la génétique, voilà. Oui.
Enfin voilà. Donc on a vu que on est dans une pratique positive, puisqu'on a on peut offrir des perspectives là où il n'y en avait pas il y a très très peu de temps, et qu'en plus on a une explosion. D'autres possibilités qui en découlent, on n'est qu'au début. Anne Galli, un mot de conclusion, Nicolas Boissel?
Juste pour dire très rapidement quand même que en fait les recherches dans ce domaine-là sont bien encadrées et que on a toute la réglementation nécessaire pour suivre des pratiques éthiques dans le contexte de la thérapie génique et de son utilisation chez l'homme.
Nicolas Boissel?
Nous, on espère que la France va mettre le pied à l'étrier et qu'on va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Pendant de nombreuses années, on a eu quelques freins qui sont, on va dire, réglementaires pour développer nos propres stratégies. Je pense que le fait que ça se démocratise va lever ces freins très probablement dans les mois et dans les années qui viennent.
Oui, le millefeuille administratif, surtout entre l'idée qu'on a et la réalisation et les protocoles et l'application, est toujours beaucoup trop longue, et c'est sans doute un des points qu'il va falloir traiter. Mais nous reviendrons sur tout ça, c'est permanent et c'est intéressant de voir les gens qui sont dedans, je dirais, essayer de sortir de ce cela, avec des perspectives valables pour tous. Merci à tous les deux d'être avec nous sur France Culture. Cette émission a été possible, d'une part, avec le partenariat du quotidien du médecin, d'autre part, avec Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Rafik Zénine et Bernard Laniel. Vous pourrez la réécouter tellement elle est passionnante sur le site internet franceculture.fr. Et demain, n'oubliez pas de rester debout, puisque le thème c'est « Lève-toi et marche » avec le neurochirurgien Stéphane Palfy. Tous à l'écoute.